lui fait Sylvia Célestin et lui fait Jean-Marc à Mulhouse. Donc il me fascine que je puisse les repérer, qu'on prépare leur prise de parole. Voilà, merci. Pardonnez-moi, on va revenir à vous, pas de problème. Donc, je me présente rapidement, je m'appelle Delphine Pons et je suis Jeanne d'Arc. Donc voilà, je vais vous désigner comme ambassadrice.
Je m'appelle Maxime Snarch, je suis une lycée Jeanne d'Arc. Mais vous pouvez poser vos questions. Y a-t-il un suivi psychologique auprès de receveur après une intervention?
Y a-t-il un suivi psychologique auprès du receveur après l'intervention?
Alors, je pense que j'avais
Oui, j'avais une question concernant la grève. Enfin, je sais qu'il y a des recherches qui sont menées en ce moment concernant la grève du cerveau. Et peut-être que dans quelques années, ce sera possible. Mais là, dans ce cas-là, la question de l'identité du receveur, elle est quand même réellement mise en question. Et s'il n'y a pas des limites à cette innovation en termes de greffe, des organes artificiels et tout ça, est-ce qu'il n'y a pas des limites à cette recherche?
Alors, par rapport à la première question, est-ce qu'il y a un suivi psychologique?
Alors, très brièvement, il y a un suivi psychologique très souvent parmi nous. En tout cas, pour ce qui est rein, le rein en classe et les toiles pour tous nos patients, on a un suivi psychologique de base. Pour les greffes de main et de visage, on a un suivi très particulier. Parce que, effectivement, on s'est posé beaucoup de questions avant de les faire. Et moi, je peux dire que la greffe de main, on l'a lancée, la greffe de visage aussi, pour une simple et bonne raison, c'est qu'on avait un raisonnement immunologique, c'est pas une bricolage, docteur. Il y a un raisonnement immunologique complexe derrière, qui nous a permis de dire le moment est venu de passer à l'acte, et de rattraper ce qu'on trouve dans la mythologie, etc. Et il y a aussi un raisonnement psychologique. Moi, je racontais tout à l'heure en train que j'ai fait 15 séances avec un psychanalyste, le patron de la psychanalyste freudienne française, Jean Cornu, qui est décédé malheureusement lui, et pour savoir si on pouvait vivre avec les mains d'un mort, et quand je tiens le micro avec la main d'un mort, je caresse mon copain avec la main d'un mort, je bois un verre avec la main d'un mort. Donc, si on pouvait vivre avec ça, et on sait, on a beaucoup travaillé, on s'est aperçu qu'au moment de l'appropriation, c'est pour ça que je reviens à cette notion, au moment où l'image est réapparue dans le cortex, c'est sa main, sauf qu'il sait que c'est pas la main. Donc, il y a besoin aussi d'un suivi psychologique pour les greffes abdominales, celles que je connais. C'est un suivi qui est basé sur un psychologue de l'équipe. Pour les greffes composites, donc visage et main pour le moment, c'est un suivi qui est assuré par, je veux dire, Trimo, psychologue, psychiatre classique, psychiatre psychanalytique. Voilà ce que je veux dire, assez essentiel. Pour le cerveau, ouais, très simplement, je pense que le cerveau, c'est un peu sur le cœur. Avant, c'était le cœur, c'était le lieu de tous les sentiments. Et puis maintenant, vous me dites, ce plus rien, je m'en fous. Le cerveau, moi je me demande, c'est dans un disque dur, tout bêtement. Et si on ne verra pas du cerveau dans quelques années, c'est la même chose que le cœur aujourd'hui. Mais je change de avec la nouvelle phrase là. Ce que je peux dire quand même, c'est qu'il y a des greffes de tête qui ont été réalisées. J'ai une photo que j'avais prise moi-même en Russie en 1971, un type qui s'appelait Demikov, qui faisait ça. Et pour voir ce qui se passait dans le cerveau à ce moment-là, je racontais tout à l'heure qu'on a envisagé de faire des greffes du corps en bonne santé sur une tête dans le cerveau qui était en parfait état, mais le corps était foutu. Tout ça était peut se discuter, tout ça est en l'air. Et moi, pour moi, le cerveau va se faire disque dur, et pas plus, mais je vais bloquer, je vais passer la parole à la
dernière. Pour ce qui est du suivi psychologique pour la transplantation du cœur, il est évidemment réalisé avant l'opération pour s'assurer d'une part que le malade a la solidité psychologique pour supporter cette intervention, parce que c'est quand même pas rien. Deuxièmement, il faut s'assurer aussi qu'il comprend bien quelle est la charge qui va peser sur lui ensuite, parce qu'il y a un traitement et il n'est pas question d'arrêter ce traitement et de s'y soustraire. On a des cas anciens, il y a une vingtaine, 25 ou 30 ans, de malades qui ont décidé de se suicider en arrêtant leur traitement. Alors bon, on ne discute pas de la justesse de leur décision, mais le suivi, le diagnostic psychologique ardente permet éventuellement de déceler des personnalités qui ne seraient pas à même de supporter toute cette charge qui est en cours. Et M. Lancy nous dira, le suivi médical pendant 20 ans, c'est lourd à porter. C'est malgré tout, même si on vit, on fera bien sûr. Bon. Deuxième chose pour le cerveau pose un grand nombre de problèmes techniques. En dehors du fait, si on est acharitable avec nos contemporains, de dire que si les cons veulent en escalader, on n'aura jamais assez de cerveau pour les taper tous. Mais ça, c'est pour la chose. Mais pour le plan technique, il faut comprendre que vous pouvez greffer une tête, greffer des vaisseaux. Ces vaisseaux vont innerver, vont vasculariser un cerveau qui va fonctionner avec ce qu'on appelle les nerfs crâniens, c'est-à-dire les nerfs qui vont directement du cerveau à la face. Ceux-là, on peut espérer les faire fonctionner. Par contre, si vous greffez un cerveau, il y a un obstacle majeur, c'est la greffe de moelle, de moelle épinière. Or ça, à l'heure actuelle, on n'a pas de solution technique. Les recherches ont du mal. Vous voyez les recherches qui sont faites sur la paraplégie, sur la façon de travailler pour essayer de faire remarcher les paraplégiques. C'est quand même extrêmement compliqué. C'est comme, si vous voulez, c'est comme l'ordinateur avant l'ère du Bluetooth. Si on avait du Bluetooth, ça serait très bien. On mettrait un cerveau qui fonctionne, qui est vascularisé, et puis en bas, ça enverrait les ondes par chez vous, et ça marcherait. Mais on n'a pas ce système-là, et il faut pour l'instant raccorder l'ensemble du système électrique, pour parler grossièrement, du cerveau vers tout le reste, dans les deux sens, puisque ça marche du cerveau vers la périphérie, et pour la sensibilité de la périphérie vers le cerveau.
Donc il va falloir attendre encore un petit peu avant de se dire, c'est bon, j'ai plus un travail de savoir un jour.
Juste un point là, tout à fait important, c'est que la loi française, sauf des exceptions tout à fait anecdotiques, dans notre pays en tout cas, limite le cas de prélèvement d'organes chez les donneurs au cas où les personnes sont en état de mort encéphalique, c'est-à-dire où leur cerveau est irrémédiablement détruit. Donc l'essentiel des donneurs prélevés en France sont des gens dont le cerveau est irrémédiablement détruit.
Les personnes refusent-elles d'être donneurs par peur de transmettre leur identité?
Les personnes refusent-elles d'être donneurs par peur de transmettre leur identité?
À l'agence, nous avons le registre du refus dans lequel les gens qui refusent absolument et de manière tout à fait consciente et argumentée peuvent s'inscrire par simple courrier. Et puis on fait des études sur les motifs du refus. Il y a actuellement une étude qui s'appelle Famille Réal, qui est pilotée par Saint-Louis, là-dessus. Alors, ce n'est pas ce motif-là qui ressort, pas du tout. Ce qui ressort en premier, c'est la peur d'avoir mal et de subir un geste invasif. Et à peu près au même niveau, la peur des trafics. C'est-à-dire, on est haut, on ne sait pas ce qu'on va en faire, on se lève avec tout ce qui se passe. Donc, une espèce de crainte d'un mauvais usage et la crainte de la douleur, de se faire, c'est souvent le mot qui ressort, hein, charcuter. Ou, voilà, ce sont ces deux motifs-là. Et l'idée que quelqu'un pourrait prendre votre identité ne ressort pas dans les enquêtes que nous faisons, notamment avec le service de psychiatrie de Saint-Anne auprès de
vous. Alors, monsieur, vous passez depuis un moment.
Le don d'organes, non, je
veux dire, non.
Non, monsieur Jean-Luc, je vais vous répondre quelque chose. Je n'ai pas bien compris. Quelqu'un qui refuse d'être donneur une fois mort ne peut pas craindre le geste invasif qui va lui enlever son cœur. Ah, c'est ça.
C'est
ça qui est. Villa avec Expérience d'Académie. Je mets la zone dans l'urgence. Ensuite, le cerveau est un disque dur. Non, monsieur. Non, monsieur. Mais un ordinateur. Et maintenant, je vais vous dire, sur les prêtres, le corps morcelé, il y a une grande artiste qui s'appelle Homme-Lan. L'artiste qui a expérimenté sur elle-même les prêtres et une amélioration chirurgicale. Alors, maintenant, je pose une question au Sénat. Oui, c'est pas question. Alors, est-ce que le prêtre n'a-t-il pas le droit de commettre quand même l'identité du donneur? C'est donc le Sénat.
Je ne suis pas le Sénat, mais je reconnais, j'approuve entièrement ce que madame a dit tout à l'heure sur les raisons de la législation française. Qui a été approuvé, je crois, par tout le monde.
C'est un peu la
réalité. Je crois que c'est de vous donner la preuve que c'est dans le fantasme que tout se passe.
Vous n'avez pas à dire oui. On va écouter les avis de tout le monde. On n'est pas là pour trancher, monsieur. Et je dirais que même Madame Orlan est là. Nous allons avoir le bonheur de l'écouter tout à l'heure. Plus tard, dans quelques jours, même, pardon, je suis un petit peu mal, elle s'exprimera au nom d'elle-même et pour elle-même. Merci.
Question suivante. Moi, j'ai une question qui s'adresse à Madame Prada-Bordena. Premièrement, y a-t-il assez de donneurs et de greffons? Y a-t-il des gens qui meurent en attente d'une greffe? Et si oui, comment pourrait-on faire pour qu'il y ait plus de personnes qui donnent leurs organes en cas de décès?
Alors, la réponse est... Y a-t-il assez de donneurs? En France, il y a une greffe des organes, on l'a dit tout à l'heure, rein, foie, cœur, poumon, et puis des choses un peu plus compliquées et qui se font en beaucoup plus petit nombre, comme par exemple l'intestin ou les avant-bras ou les pinces. Ce qui est clair, c'est que dans notre pays, compte tenu du vieillissement de la population et des problèmes de la médecine, on a beaucoup, beaucoup besoin de greffer des reins. Il y a 18 000 personnes, il y a eu l'année dernière 7 000 personnes en liste d'attente, et on a greffé 3 000 reins. Donc, je vais vous faire un dessin, il en est marqué beaucoup. Pour les foies, c'est moins évident. Et pour les cœurs et les poumons, il n'y a pas de liste d'attente telle qu'on pourrait dire que les gens attendent et décèdent faute d'organes. En revanche, ce qui est vrai, c'est que parfois, c'est des greffes vitales, notamment au cœur, et que la nuit où le patient a très mal et où son cœur va s'arrêter, ben, si cette nuit-là, il n'y a pas un cœur qui lui correspond, c'est-à-dire de quelqu'un qui a en gros la même taille que lui, en gros le même poids que lui, en gros... en très gros, le même âge que lui, et des conditions biologiques en plus, et bien cette nuit-là, si on n'a pas, et bien il va mourir. Ça, c'est vrai. Donc, effectivement, il y a des gens qui décèdent parce que ce jour-là, cette nuit-là, quand ils ont mangé un champignon empoisonné et qu'ils ont eu une hépatite fulminante, et bien cette nuit-là, il n'y avait pas d'honneur pour eux. Ça, c'est pas une question de jour. C'est une question de statistique. Alors, en revanche, on manque de donneur, c'est vrai. Je vous disais les chiffres tout à l'heure, 16 000 personnes en liste d'attente et 3 000 greffes dans l'année, ben, c'est pas compliqué. Les autres personnes qui attendent un rein sont en dialyse. C'est une vie lourde, difficile, très médicalisée. Et la greffe ne leur sauve pas la vie, mais change complètement leur vie et surtout leur prolonge. Parce qu'en dialyse, on vit moins bien et on vit moins longtemps. Alors il faut absolument dans notre pays augmenter la greffe de rein, il faut augmenter le nombre de dons. Il y a un pays qui a très bien réussi, c'est la Norvège. La Norvège arrive à greffer 70% des personnes qui ont besoin d'un rein. Donc on doit pouvoir y arriver. Et pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut en parler, en parler, en parler, en parler. C'est ce que vous faites aujourd'hui. Il faut que les gens comprennent à quoi ça sert, qu'ils comprennent qu'en faisant don de leur organe après leur mort, ils peuvent sauver la vie de plusieurs personnes. Et puis aussi, il faut développer quelque chose qui en France a mis un peu longtemps à se développer, qui est très complexe, et je pense que c'est aussi un sujet que vous aborderez, qui est le don du vivant d'une partie de soi. En France, ce n'est pas assez développé. On vient juste de passer les 10% de greffe rénale à partir de dons vivants. Dans d'autres pays, c'est 50%, c'est 4 à 20%.